Euradio, l'Europe, le monde, la paix, avec les chercheurs du Centre d'excellence Jean Monnet Unipaix.
Bonjour Léonard Colomba Pétingue.
Bonjour.
Vous êtes docteur associé au Centre de recherche international à Sciences Po et attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Lille. Votre thèse de doctorat portait sur les missions européennes de maintien de la paix au Sahel, notamment au Niger. Nous savons aujourd'hui que cela s'est soldé sur un échec. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle était la stratégie initiale ?
Alors en 2011, l'Union européenne a élaboré sa première stratégie pour le Sahel, considérant que les problèmes de sécurité et les problèmes de développement devaient impérativement être traités de façon simultanée et coordonnée. Cette stratégie était pensée à une échelle régionale et elle concernait plus particulièrement la Mauritanie, le Mali et le Niger. Et elle part du principe qu'il faut consolider les institutions déjà existantes dans ces pays, notamment dans les domaines régaliens, l'objectif annoncé étant de lutter contre le terrorisme, contre le crime organisé et contre l'immigration irrégulière.
Mais cet objectif n'a pas été atteint.
Alors, en fait, aucun des objectifs annoncés dans cette stratégie de 2011 n'a vraiment été atteint. Et pour expliquer cette situation, deux hypothèses se dégagent. Une première hypothèse qui interroge la cohérence de l'Union européenne, la coordination des instruments européens qui sont déployés au Sahel, et puis une deuxième hypothèse qui, là, souligne le manque d'appropriation de l'aide européenne par les gouvernements du Sahel. Et l'enjeu de mon travail, de thèse notamment, a été d'essayer de montrer comment ces deux dynamiques se renforcent mutuellement.
Quels sont les résultats auxquels a abouti la lecture ethnographique que vous avez appliquée dans votre recherche ?
Alors, d'abord, je montre que tout au long des années 2010, le gouvernement du Niger n'a cessé de capitaliser sur les anxiétés et les angoisses des dirigeants européens, notamment en matière de terrorisme, sur les migrations irrégulières. En fait, pour les élites au pouvoir au Niger, la coopération avec l'UE donnait accès à des rétributions matérielles sous différentes formes, des appuis budgétaires, des paires d'IEM, des rénovations d'infrastructures importantes, des dotations en équipement matériel aussi. Et tout ceci générait des effets de rente et alimentait des circuits économiques à une échelle locale. Par contre, si maintenant on élargit la focale au-delà de ces élites gouvernementales, on repère des dynamiques très différentes. À partir du milieu des années 2010, il y a eu une coalition de partis politiques, de syndicats, de mouvements étudiants nigériens qui s'est formée pour remettre en cause à la fois la légitimité et l'efficacité des interventions européennes.
Et du côté des acteurs européens eux-mêmes ?
Alors, du côté des acteurs européens, il faut bien comprendre que chacune des missions et des opérations de l'UE réclame une coopération très étroite entre une multitude d'agents qui ont des trajectoires professionnelles et des cultures administratives très différentes. On va retrouver des militaires, des gendarmes, des policiers, des diplomates, des magistrats, des professionnels de l'aide au développement. Et tous ces agents n'investissent pas leur rôle tout à fait de la même manière et ne vont pas avoir exactement la même interprétation du mandat qui leur est confié, ni même des moyens sur lesquels s'appuyer. Et l'un des effets que je souligne dans mon travail tient à la concurrence et aux frictions qui peuvent s'instaurer au sein des missions et opérations de l'Union européenne et qui compliquent assez nettement le travail de mise en œuvre de ces interventions. Et puis, il y a aussi un phénomène d'autonomisation de ces missions.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Alors, une fois qu'elles sont déclenchées, ces missions tendent à s'autonomiser, comme je le disais, s'autonomiser de la tutelle des États membres. Les agents qui sont envoyés sur les théâtres d'opération vont être amenés à reformuler les priorités, à identifier de nouveaux besoins localement. Et dans le cas de la mission que j'ai regardée au Niger, la mission ECAP Sahel, il y a eu un phénomène de débordement du mandat au gré des turbulences, des évolutions du contexte politique et sécuritaire local. Et au fond, ces missions et opérations de l'UE sont souvent imaginées comme des dispositifs légers, modulables, temporaires au départ. Et en pratique, on voit qu'ils tendent progressivement à s'alourdir, voire même à s'enraciner dans le paysage institutionnel du pays hôte. Le mandat va s'étirer, les objectifs s'accumulent, s'enchevêtrent même, les budgets augmentent sans qu'on observe pour autant une amélioration tangible de la situation. Et dans ce contexte, il devient même difficile d'évaluer l'efficacité des interventions de l'Union européenne. On observe au Sahel qu'à partir de la deuxième moitié des années 2010, les missions ont commencé à vivoter, pour ainsi dire. Elles avaient de plus en plus de peine à convaincre de leur plus-value et donc suscitaient de moins en moins d'enthousiasme à Bruxelles.
Merci Léonard Colomba-Pétingue d'avoir partagé avec nous les résultats de votre travail de recherche. Je rappelle que vous êtes docteur associé au Centre de recherche international à Sciences Po et attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Lille. Merci beaucoup.
Merci à vous.